Les voies de service magazine édition du 20 novembre, c'est l'émission qui débute à l'instant. Mon nom est Claude Blas, bien content de vous retrouver encore une fois et de retrouver nos collaborateurs, en fait, de toujours avec des articles toujours aussi intéressants. Et tout de suite, on va demander à Franceline Nieuwaar, oui, qu'allez-vous nous parler ce matin?
Bien, bonjour.
Bonjour.
Donc, mes articles d'aujourd'hui portent, je les ai pris dans l'itinéraire comme d'habitude. Donc, l'itinéraire, c'est le 1er d'octobre 2017, mm-hmm. et c'est par rapport au travail. Travailler en accord avec soi, changement de carrière, hein, et c'est un texte écrit par Alexandra Guélil. Uh-huh. Il y en aura un autre écrit par Yannick Marcil dans l'itinéraire de novembre 2017 sur les femmes et F-A-I-M de S de moi. Le mois MOIS, et puis éventuellement un troisième article que j'ai pris dans Le Bel Âge, et ça s'intitule « Cette Sainte Barbe, trois fois Oura pour 3M », et je vous laisse le suspense.
Parfait, merci Franceline, et un retour de petite semaine de vacances, hein, Serge?
Eh oui, au chaud.
Bon. Oui, Serge Hamelin, alors de quoi allez-vous nous parler ce matin?
Alors, moi je vais vous parler de l'ère des robots, qui est commencée. Mm-hmm. Et je vais vous donner des exemples de ça. Puis après ça, zone protégée. Alors tout ça est pris dans la revue Protégez-vous, écrit par Frédéric Perron et Rémi Leroux, entre autres. Mm-hmm. Alors ça s'appelle zone protégée et c'est à cause des pirates informatiques, les entreprises, les gouvernements, la police, tous sont susceptibles de s'intéresser un peu trop à votre vie privée. Alors comment on se protège de tout ça? C'est bon?
Merci Serge. Mm-hmm. Et de mon côté, ben, je vous parlerai de noix et arachides. Qui réduirait peut-être le risque de cardiovasculaire. On verra. Hein? Bon article. C'est bon. On vous revient tout de suite. Alors, Franceline, un premier sujet, c'est travailler en accord avec soi.
Oui, effectivement. Donc, écrit par Alexandra Guélil dans l'itinéraire de octobre 2017. En effet, il n'est pas rare d'entendre parler de ces professionnels qui entament un changement de carrière. S'il peut être considéré parfois comme radical, voire brutal, les chercheurs valident de plus en plus le besoin de correspondre à ses propres valeurs. On change de travail afin que ça corresponde à nos propres valeurs. De tous les temps et à toutes les époques, il a été toujours question de trouver l'appariement entre des postes ou des tâches et des individus. C'est d'ailleurs le but ultime de la profession de conseiller d'orientation, amorce Jacques Fauré, professeur au département d'organisation et ressources humaines de l'École de sciences et de la gestion de l'UQAM. Il dit que ce soit sous l'angle de la personnalité, des intérêts vocationnels ou des sources de motivation, l'idéal est de trouver un emploi qui est une continuité naturelle de la personne que l'on est. La profession ou l'activité choisie deviendrait donc un moyen d'effacer la ligne entre ce qu'est l'individu et ses actions quotidiennes. Un aspect que M. Fauré préfère aborder en parlant des motivations et des forces. Pour illustrer son propos, il conseille un test gratuit et en ligne sur le site viame.org permettant de classer ses forces par le biais de réponses données à une centaine de mises en situation. Il dit « Tout le monde a des forces, il faut juste les connaître et savoir les exploiter. » S'il admet qu'il faut se méfier des tests grand public prétextant procéder à un classement en 5 questions, M. Fauré estime que tout le secret du bonheur au travail serait, dit-il, d'être capable, dans son emploi, d'utiliser souvent, longtemps et intensément nos forces. C'est là que cela va bien. Le professeur soutient que cette vision va à l'encontre de certaines perceptions visant à faire croire qu'un rôle doit être joué dans le milieu de travail. Il dit « Il peut y avoir des comportements, des postures ou des étiquettes à adopter ou à respecter, mais le but est d'avoir le moins de décalage possible. Lorsque vous faites appel à vos forces, à ce qui est naturel et authentique, vous n'aurez pas l'impression de travailler », ajoute-t-il. Professeur au département de management et technologie de l'UQAM, Mme Kerstin a travaillé sur le changement de carrière des différentes générations. Elle explique que cette façon de penser la réorientation professionnelle est une particularité de la province, puisque la société met l'accent sur l'expérience professionnelle, poussant les jeunes à toujours acquérir des compétences. Pour Madame Kerstin, c'est à partir de la retraite que l'on commence, de la trentaine, pardon, que l'on commence à prendre du recul, allant parfois jusqu'à un questionnement sur le rôle que l'on joue dans la société. Cette tendance vise souvent à atteindre l'équilibre travail-famille et à redéfinir ses priorités. Pour ce qui est de la génération 50-80 ans, 8 personnes sur 10 décident de retourner au travail, et ce, même si elles touchent une pension. Cela peut être parce que ces personnes s'identifient à leur profession qui fait partie intégrante de leur personnalité, ou pour répondre à une question financière. De plus, la chercheure a constaté que les 10 dernières années ont vu émerger une génération de professionnels très jeunes et de ceux qui sont proches de la retraite qui ont un grand besoin d'établir des liens et de transmettre leurs connaissances. Cela permet de se questionner sur les façons dont on peut créer un environnement de travail qui répond à ces besoins spécifiques, explique-t-elle. Directeur de la clinique carrière de l'UQAM, professeur conseiller d'orientation, Louis Cornoyer rappelle qu'il existe différents stades dans une vie professionnelle. Une réorientation de carrière n'est pas quelque chose que l'on décide tout d'un coup. On peut décider d'un coup de passer à l'action, mais souvent, il s'agit d'un projet préparé. Monsieur Cournoyer identifie 4 principales causes à un tel changement qui sont le fait, premièrement, de réaliser que les tâches exercées ne plaisent plus aux travailleurs, le fait d'avoir des relations interpersonnelles insatisfaisantes, les changements organisationnels dans les entreprises et enfin les enjeux psychosociaux qui découlent des 3 premières causes. Les changements technologiques influenceront la façon dont on se réoriente. Il faut se rappeler qu'avant, la gestion des carrières revenait au syndicat, explique le professeur, tandis qu'aujourd'hui, l'ancienneté est de moins en moins valorisée. Il faut donc travailler avec son portefeuille de connaissances. Cela peut donc mener à une disparition de certaines tâches. Quand le métier se transforme, c'est notre personnalité qui se transforme aussi. Pour Emmanuelle Desrosiers, coordinatrice de la clinique carrière à l'UQAM et conseillère d'orientation en pratique privée, un certain flou persiste dans le monde du travail d'aujourd'hui. Dans le même moment où de plus en plus de métiers sont disponibles sur le marché du travail, d'autres se transforment, ce qui peut rendre plus complexe la prise de décision quant à sa carrière. À la question de savoir si les changements de carrière sont admis par la société, M. Cournoyer rappelle que dans ses consultations, il s'intéresse à l'entourage de la personne concernée. Pour un adulte ayant une famille, contrairement à un jeune au cégep, il peut y avoir des conséquences sur son entourage. Cela signifie que les projets individuels sont subordonnés aux projets collectifs et aux projets de couple. Quand l'un des deux décide d'aller vers autre chose, l'autre doit souvent s'adapter, explique le professeur. Et enfin, Madame Desrosiers questionne la façon dont sera interprété le changement de carrière par l'ensemble du réseau professionnel de l'individu concerné. C'est en quelque sorte un facteur déterminant qui fera que la personne qui entame un processus de changement de carrière s'y sentira bien ou non, ajoute-t-elle. Rappelons qu'aujourd'hui, un peu plus de 60% des conseillers d'orientation travaillent avec des adultes, tandis qu'un conseiller sur 5 travaille avec des jeunes au secondaire. Une proportion qui a plutôt tendance à augmenter au fil des années. Donc voilà, changement de carrière, travailler en accord avec soi, écrit par Alexandra Guélil, l'itinéraire 15 octobre 2017.
Et tout à fait, il y a tellement d'ouverture vers autre chose aujourd'hui. On peut aller aux études à n'importe quel âge, en fait, même à l'âge de la retraite.
Absolument. Ah,
on revient dans quelques instants avec Serge. Et c'est le temps, si vous voulez, de changer de carrière parce qu'il y a les robots qui s'en viennent bientôt, hein, mon Serge?
Ah, qui s'en viennent. Nous y sommes.
Voilà.
L'ère des robots par Rémi Leroux dans la revue Protégez-vous. Automobile, domotique, santé, téléphonie, les machines intelligentes sont partout. Et voici celles qui changeront votre quotidien maintenant ou très bientôt. Vous êtes confortablement installé devant votre téléviseur. Prête à choisir un film sur Netflix. Cette plateforme de diffusion en flux continu, streaming, vous propose une sélection de longs métrages qui titillent votre curiosité. Ces suggestions ne sont pas dues au hasard. Elles sont le fruit de l'intelligence artificielle, IA, un terme qui désigne les nombreuses technologies informatiques cherchant à imiter l'intelligence humaine pour ainsi analyser des données, raisonner, parler, prendre des décisions. Par exemple, Netflix utilise des algorithmes d'apprentissage automatiques, machine learning en anglais, qui sont capables de déterminer, à partir de vos précédents visionnements et de façon prédictive, si vous êtes plutôt disposé à poursuivre la diffusion de votre série ou si vous êtes ouvert à de nouvelles propositions. Le système génère aussi, pour chaque film ou série, une note en pourcentage reflétant la probabilité que vous vous y intéressiez. L'IA peut prendre des formes beaucoup plus élaborées dans d'autres contextes. Transport, santé, secteur manufacturier et bancaire, commerce, alimentation et restauration. Les champs d'application sont infinis puisque l'IA laisse aux machines le soin d'exécuter des fonctions normalement réservées à l'être humain. Conduite automobile, détection du cancer, compilation et synthèse de données, etc., etc., etc. Dans le grand concert mondial de l'intelligence artificielle, ben imaginez-vous donc que Montréal joue un rôle de premier plan. La métropole québécoise dispose, en effet, de laboratoires à la fine pointe de la recherche et voit naître de jeunes entreprises qui pèsent de plus en plus lourd dans le secteur. Élément AI, par exemple, a été cofondé par Jean-François Gagné, Nicolas Chapados ainsi que Yoshua Bengio, directeur de l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal, MILA, et pointure internationale de l'apprentissage profond. La mission d'Element AI, en anglais, aider les entreprises à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs activités afin de tirer profit des données numériques dont elles disposent. Il pourrait s'agir, par exemple, de modéliser les risques en assurance de dommages dans le but d'en revoir les tarifs. En juin 2017, moins d'un an après sa création, Element AI a annoncé avoir récolté 137 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs, dont Microsoft, Intel et Nvidia. Cet argent sera investi dans des activités de recherche et de développement et permettra l'embauche de quelques 250 employés. Parce que l'intelligence artificielle s'immisce dans notre quotidien, à la maison comme au travail, et sans que nous en soyons toujours bien conscients, protégez-vous. Propose une immersion au cœur de ces innombrables formes d'apprentissage de la machine. Une machine dont les films de science-fiction nous disent qu'elle pourrait bien, à terme, devenir plus intelligente que l'être humain. De la science-fiction, vraiment? Émilie Bouchard, 39 ans, est avocate dans un cabinet du centre-ville de Montréal. Elle habite sur la rive sud avec son conjoint et leurs trois enfants. Dans la vraie vie, Émilie n'existe pas, mais pour les besoins de cet article, on l'a imaginée afin de la faire évoluer dans un monde où l'intelligence artificielle serait omniprésente au quotidien. Il ne s'agit pas de science-fiction pour autant. Émilie vit dans un futur très proche, en 2020, et toutes les situations décrites dans cet article permettront d'illustrer les grandes applications de l'IA. Pour construire ce récit, on s'est inspiré d'entrevues réalisées avec plusieurs experts. Les termes suivis d'un astérisque sont expliqués dans notre lexique à la page 23. Par ailleurs, toutes les technologies dont il est question dans cet article existent et certaines sont déjà commercialisées, tandis que d'autres devraient l'être dans les prochaines années. Voilà. Alors, il est 7h05 et 6h30 du matin. On commence comme ça, tranquillement. Émilie Bouchard se réveille au son des variations Goldberg, une œuvre de Bach, que son assistante vocale intelligente, Alexa, a choisie dans sa liste de morceaux favoris. Mais ce matin, Émilie n'a pas le temps de se laisser bercer par la musique et elle demande plutôt à son assistante vocale quel est l'état de la circulation en direction de l'île de Montréal. Alexa est un logiciel intégré à Echo, le haut-parleur intelligent d'Amazon, commercialisé en 2015. Google vend un système équivalent Google Assistant. Cet objet connecté utilise le réseau Wi-Fi de la maison pour surfer sur Internet et obtenir les renseignements que demande Emily. L'assistante vocale répond que des ralentissements sont à prévoir sur l'autoroute 20 et le pont Jacques-Cartier après 7h30. On n'avait pas besoin d'assistante pour le savoir, mais enfin. Elle suggère donc à Émilie de prendre le nouveau pont Champlain. Oh, oui. Alors, ce système utilise certaines technologies propres à l'intelligence artificielle, en particulier les réseaux de neurones artificiels, des programmes informatiques composés d'algorithmes reliés entre eux à la manière du cerveau humain et imitant le fonctionnement de ce dernier. La machine apprend donc à raisonner par elle-même. Et puis, on est rendu à 7h05 du matin. Hein? On a commencé à 6h30 dans la cuisine. Ça, c'est bon, ça. La famille d'Émilie déjeune. En passant près du réfrigérateur, Émilie donne deux petits coups sur la porte qui devient instantanément transparente. Elle peut regarder à l'intérieur du frigo, oui. Ah oui, à l'intérieur du frigo, sans l'ouvrir, et constate alors qu'il n'y a plus de lait. Elle n'a pas besoin d'ouvrir le frigo, là. Son conjoint lui dit qu'il en a déjà commandé, ainsi que quelques autres produits sur la liste de son supermarché préféré. La porte du réfrigérateur LG Smart InstaView redevient opaque, et Émilie demande alors à son assistante vocale intelligente d'afficher sur l'écran tactile, à cristaux liquides de l'électroménager quelques recettes de brochettes de kefta de bœuf qu'elle compte cuisiner durant la fin de semaine. Alors là, on est juste à 7h05 du matin. Alors, imaginez le reste de la journée.
Avez-vous quand même l'impression que ça va trop vite?
Ah! Oh!
On répondra à cette question tout de suite après. On revient dans quelques minutes.
Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mon et la charité, c'est que je peux pas faire. Chaque jour, comment je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre. Moi, je prends mon violon et j'attrape mon archer. Et je joue ma vieille valse pour faire mes amis danser. Vous connaissez mes chers amis. La vie est bien, bien trop courte pour se faire des misères. Allons danser ce soir. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Monde de la charité, c'est quelque chose pour papa. Chaque jour, moi je vis, on demande comment je vis. Je dis que sur l'amour.
Alors, on parlait de réorientation de carrière et des robots qui vont nous aider à travailler. Alors, en lien avec ça, Zachary Richard, travailler, c'est trop dur.
Très beau lien quand même. Ici, on ne travaille pas ce matin, on peut le dire. Hein? On a beaucoup de plaisir. Eh bien, moi, j'ai un petit article qui dit « Noix et arachides réduiraient le risque cardiovasculaire ». Le saviez-vous?
Non.
Ah, alors, il faut en manger à partir de...
Je savais qu'il y en avait qui étaient allergiques, par exemple.
Oui, tout à fait, c'est
plus,
vrai.
Plus que sauver des...
Et j'ai quelque chose en fin d'article, en fait, sur les allergies, ah, nouvelles, ouais, ouais, découvertes. En fait, j'ai retrouvé cet article dans la presse de cette semaine. Donc, des personnes consommant régulièrement une variété de fruits à coque, comme des noix, on appelle ça des fruits à coque aussi,
uh-huh,
eh bien... ils paraissent avoir moins de risques de maladies cardiovasculaires comparativement à celles en mangeant rarement ou jamais. Et ça, c'est selon une étude dans la revue de l'American College of Cardiology. Même des cacahuètes, qui sont des arachides, procurent des bienfaits pour les artères et le cœur. Et tout ça, c'est encore une fois démontré par l'étude.
Bon.
Les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux, le mode de vie et les habitudes alimentaires de plus de 210 000 employés de services de santé. Pendant une période de suivi de plus de 20 ans, 14 136 de ces personnes ont développé une pathologie cardiovasculaire, dont 8 390 une maladie coronaire et 5 910 ont eu un accident cardiovasculaire qu'on appelle AVC. Comparativement aux participants de l'étude mangeant rarement ou jamais des fruits à coque, ceux qui en consommaient une portion de 28 grammes au moins 5 fois par semaine couraient 14 % moins de risque de pathologie cardiovasculaire et avaient 20 % moins de chances de développer une maladie coronaire. Et c'est encore une fois conclu par l'étude. C'est quand même assez impressionnant. Consommer une variété de fruits à écale au moins quelques fois par semaine est bon pour la prévention de maladies cardiovasculaires. Et ça, ça a été dit par un des chercheurs de l'endroit. Mais, souligne-t-elle, il ne faut pas en manger trop, car ils sont riches en calories. Ouais, si on veut prendre un peu de poids. La chercheuse déconseille aussi les fruits à coque salée. Naturellement, il faut les prendre naturels. La consommation régulière de ces aliments est liée à une réduction des maladies cardiaques, du diabète et de l'hypertension artérielle, tout simplement. Mais la plupart des études précédentes se sont concentrées sur la quantité ou la fréquence de consommation de ces aliments plutôt que sur l'identification des types de fruits pour déterminer ceux qui confèrent le plus de bienfaits. Cette dernière étude s'est penchée sur les différentes catégories de fruits à écale. Elle suggère que les personnes consommant des noix au moins une fois par semaine réduisent de 19 % leur risque cardiovasculaire et de 21 % celui de développer une maladie coronaire comparativement à ceux qui en mangent jamais. Quand même assez impressionnant. La consommation de deux portions de cacahuètes par semaine est liée à une baisse de 13 % cette fois du risque de maladie cardiovasculaire et de 15 % de pathologie coronaire. Deux portions ou plus hebdomadairement de fruits à coque comme des amandes, des pistaches et des noix de cajou paraissent réduire à 15 % le risque de pathologie cardiovasculaire et de 23 % les chances de maladie des artères coronaires. L'étude n'a constaté aucun lien entre la consommation d'un ensemble de fruits à coque et le risque d'accident vasculaire cérébral, mais ce risque est réduit chez les personnes mangeant de grandes quantités de cacahuètes et de noix. Et ceux qui sont, ils sont allergiques, en fait, hein, souvent on voit plusieurs personnes qui sont allergiques aux arachides, eh bien, il y a une nouvelle étude qui a réussi à voir qu'il est possible d'avoir un thème épidermique qui a réduit les réactions allergiques, en fait, à l'arachide chez des enfants et des adultes. Et ça, c'est un résultat encourageant d'un essai clinique publié mardi dans le journal de American Medical Association. Il s'appelle le Viasquin. Il est mis au point par la Société française de biotechnologie DBV, expose les sujets à des doses contrôlées de protéines d'arachide, ce qui permet de réduire leur sensibilité. Un essai clinique de phase 2, dont les conclusions sont détaillées mardi dans le JAMA, donc mardi dernier, a été mené aux États-Unis et en Europe pendant 12 mois sur 221 patients âgés de 6 à 55 ans allergiques à l'arachide. Ils ont été traités avec un timbre contenant une dose concentrée de protéines d'arachide de 250 mg. Et les effets les plus marquants ont été observés chez les enfants de 6 à 11 ans. Le taux de désensibilisation a atteint 53,6%. Contre 19,4% dans le groupe ayant reçu un placebo. Et, dans un sous-groupe de participants traités pendant 36 mois, le taux a atteint 83,3% quand même. Les résultats prometteurs de cet essai, destinés à évaluer l'efficacité et l'innocuité de ce traitement, ont justifié d'entreprendre un essai clinique de phase 3. Il est en cours, d'ailleurs présentement, auprès des enfants âgés de 1 à 11 ans. Sur la base de ce résultat, l'Agence américaine des produits alimentaires et pharmaceutiques, le FDA, a octroyé le statut de percée thérapeutique à ce timbre, ce qui ouvre la voie à un processus accéléré de mise en marché. En janvier 2017, l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses avait recommandé de faire consommer régulièrement de l'arachide aux enfants dès l'âge de 4 mois, ce qui permettait de réduire de 81% le taux d'allergie. Alors, vous voyez, on va de plus en plus dans les études. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner, tout ça, mais c'est un timbre tout simplement, et on dit qu'on peut passer tout simplement par la peau à place de passer par les vaccins.
Ben oui.
Alors, c'est un article de la presse mise à jour du 14 novembre dernier. On vous revient dans quelques instants. Alors, Franceline,
oui, quelques brèves. Oui. Saviez-vous que les cofondateurs de Montréal, Jeanne Mance et Paul de Chomédé, de Maisonneuve, étaient tous deux originaires de la Champagne? Alors, ce fut un beau prétexte pour mettre cette région française à l'honneur durant la grande dégustation de Montréal qui s'est tenue à la place Bonaventure cette année.
Ah, quand même.
Ah, c'est bon, ça?
Eh bien, restez à l'écoute dans quelques instants. On vous revient avec la deuxième partie de l'émission.
Un petit voyage 46 ans en arrière avec John Lennon, Jealous Guy.
Merci beaucoup. Eh bien, bon retour pour cette deuxième partie de l'émission. Il y a Franceline qui veut nous parler de Sainte-Barbe, trois fois hurrah.
Oui, trois fois hurrah pour 3M.
Ah, quand même.
En effet, la revue Le Bel Âge propose chaque mois, met en évidence une municipalité dite « amie des aînés » qui met en un projet donc original ou innovant, qui fait un projet original ou innovant. Et donc, cette fois-ci, c'est Sainte-Barbe. Et je vous parle de ce projet qui a attiré l'attention du Bel Âge et donc de Linda Presley qui écrit ça dans cette revue. Quand il est question de favoriser le vieillissement actif de ces villageois, la communauté montérégienne de Sainte-Barbe, devenue municipalité amie des aînés en 2014, ne ménage pas ses efforts. Cherchant à stimuler les barberivins du troisième âge à améliorer leur qualité de vie, Nicole Poirier et Louise Boutin, deux conseillères municipales dévouées et créatives, ont mis leurs idées en commun. La forme physique retenait mon attention, tandis que Nicole, plus popoteuse, songeait à l'aspect alimentaire, confie Louise Boutin. On a donc dit, pourquoi ne pas combiner les deux? C'est ainsi qu'est né le projet 3M. Et les 3M, c'est manger, marcher, mieux-être, dont l'objectif principal est d'aider les membres du Club de l'Âge d'Or et les résidents de Sainte-Barbe, ainsi que ceux du Haut-Saint-Laurent, à adopter de saines habitudes en matière d'alimentation et d'activité physique, tout en brisant la solitude et en stimulant la participation sociale des aînés isolés. C'était un projet fou ? Ben, avant sa concrétisation, nos deux complices osaient à peine y croire. Imaginez ça, nos aînés peuvent accéder aux infrastructures en profitant d'un encadrement professionnel et ce, gratuitement, raconte Nicole Poirier. Car il ne suffisait pas d'installer des équipements, il fallait que le tout soit animé et organisé. Ça prenait une touche humaine pour mieux servir nos aînés, s'exclame Alain Billette, coordonnateur loisirs, culture et vie communautaire. Quand ils s'inscrivent au projet, les participants sont entre bonnes mains. Ils ont d'abord droit à une évaluation de leur état de santé général effectuée par Nicole Poirier, infirmière bénévole. Ensuite, lors des ateliers de cuisine collective animés par une nutritionniste, ils apprennent à préparer des plats basiques ainsi qu'à connaître et utiliser une foule d'aliments santé tels que les fruits exotiques, quinoa, les épices. L'expérience permet aux gens de cuisiner ensemble et de faire des découvertes intéressantes comme l'art d'apprêter les légumineuses pouvant servir à remplacer la viande, explique Louise Boutin. Ils bénéficient également des conseils d'une kinésiologue. Cette dernière juge leurs conditions physiques et dresse à chacun un programme d'activité sur mesure. Ainsi, pour Normand Desrochers, dont la hanche droite est usée, pas question d'effectuer 3 tours de piste à la course. La kinésiologue a tenu compte de mes limites et m'a proposé des exercices que j'ai été capable d'exécuter sans problème, témoigne le sexuagénaire. J'ai donc pu m'entraîner en groupe, ce que j'ai beaucoup apprécié, mais en y allant à mon propre rythme. Pour sa part, José Meloche, une quinquagénaire retraitée depuis peu, s'est mise à bouger davantage depuis qu'elle s'est inscrite. « J'étais inactive avant, mais depuis je fais du vélo ou du tapis roulant à la maison, j'ai même perdu près de 40 livres. » Grâce au projet 3M, les bonnes habitudes de vie sont contagieuses. L'aîné qui, par exemple, a aimé cette recette apprise dans un atelier de cuisine, aura tendance à la refaire au moment de recevoir ses parents et amis. Il partage ainsi avec ses proches ses découvertes et leur transmet de saines habitudes alimentaires, démontre Louise Boutin. Même chose du côté de l'activité physique. En invitant une amie ou un membre de sa famille à réaliser avec lui un tour de piste à la marche ou à s'entraîner sur un module d'exercice dans le parc, l'aîné crée un effet d'entraînement, ajoute Nicole Poirier. De plus, certains participants choisissent par la suite de devenir bénévoles au sein du programme, ce qui leur permet d'aider d'autres aînés à améliorer leur qualité de vie. Le projet fait aussi boule de neige, puisque de nouvelles activités comme le tai chi, la danse en ligne et les exercices animés sur les modules extérieurs sont désormais offertes aux aînés suite à leurs suggestions. Le centre communautaire a également été mis à leur disposition pour y tenir des activités de mise en forme animées par la kinésiologue et l'entraîneur physique. Par ailleurs, La cuisine communautaire, rénovée pour les besoins des ateliers de cuisine collective, sert désormais à d'autres activités dont tout le village peut profiter. Ateliers offerts par des restaurateurs des environs, camps de jour, cuisine collective intergénérationnelle. Le projet 3M prendra fin au printemps 2018. Mais comme il connaît un immense succès, personne ne souhaite sa disparition. On travaille déjà très fort là-dessus, assure Nicole Poirier. D'ailleurs, la municipalité s'est engagée à poursuivre la mise en place d'une programmation d'activités physiques à prix modique pour les aînés. On n'en doute pas un instant, les vaillants Barberivains continueront de relever le défi du mieux-être avec brio. Mmh. Voilà donc ce qui se passe à Sainte-Barbe, trois fois hurrah pour 3M.
Quelle bonne idée quand même.
Hein? Oui, hein? Ouais, ouais.
Ah, c'est une très très bonne idée, peut-être que d'autres personnes pourraient prendre l'idée.
Absolument.
Et on espère que le programme va continuer quand même après 2018. On vous revient dans quelques instants avec Serge. Alors voilà, Serge va nous faire une petite zone protégée.
Ben oui, mais avant, je vais continuer avec l'intelligence artificielle. On n'en a pas terminé.
Ah, c'était trop intéressant ça, hein, quand même.
Non, 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 non. Alors, c'est sommes-nous prêts? Hein? Tu sais, on disait, mon Dieu, ça va trop vite. Hein?
Oui.
Ben, sommes-nous prêts? Collecte des données, protection de la vie privée, disparition de milliers d'emplois. L'intelligence artificielle soulève de nombreux défis, mais apporte encore peu de réponses. La Commission de l'éthique en sciences et en technologie, CEST, est un organisme qui relève du ministère de l'économie, de la science et de l'innovation. Alors, il y a des gens qui vont nous protéger. Elle peut être sollicitée par le gouvernement dès qu'apparaissent des enjeux éthiques soulevés par de nouveaux développements technologiques et scientifiques, ce qui est le cas avec l'intelligence artificielle. Jocelyn McClure, professeur de philosophie à l'Université Laval et président de la CEST, répond aux questions. Alors, protégez-vous. En 2017, la CEST s'est donnée pour mandat de réfléchir aux enjeux éthiques relatifs à l'intelligence artificielle. Quels sont les défis que vous avez identifiés? Le plus sensible est lié à la fiabilité et à la sécurité des machines intelligentes. Hein? Imaginez-vous qu'on vous dit que ça prend une heure et quart pour venir alors que la machine s'est trompée. Avec l'apprentissage profond, celles-ci deviennent de plus en plus autonomes et elles vont prendre des décisions par elles-mêmes sans dépendre d'une programmation préalable établie par un informaticien. Or, qu'adviendra-t-il si la décision prise par la machine est une erreur, dans le domaine du cancer par exemple, ou s'il y a une défaillance qui corrompt cette prise de décision? À qui imputera-t-on la responsabilité morale et légale de cette situation? C'est un enjeu éthique clé, car il y a une grande complexité dans l'architecture même de ces machines qui dépendent de technologies développées par différentes compagnies, différentes équipes dans différents pays. Oh! Il est donc important d'adopter des règles communes et de renforcer la coordination entre les États. La régulation ne devra pas être basée sur une forme de catastrophisme, mais il faudra être conscient des risques afin de les limiter et de profiter au mieux de ces nouvelles technologies. La protection des renseignements personnels doit aussi faire l'objet d'une importante réflexion, et ça, on y reviendra tantôt. Il est également question des effets de l'intelligence artificielle sur l'emploi. En effet, les développements de l'intelligence artificielle vont engendrer une nouvelle phase d'automatisation des emplois comme celle que nos sociétés ont connue au 19e siècle avec la révolution industrielle. Il y a donc clairement plusieurs catégories d'emplois où, dans un proche avenir, les humains risquent d'être remplacés par des machines. Et c'est le cas dans le domaine des transports en particulier, où la recherche a beaucoup progressé. Des métiers qui exigent un niveau de scolarisation plus poussé sont également appelés à évoluer. L'un des exemples les plus spectaculaires qui existe actuellement est celui des logiciels en radiologie capables de détecter des tumeurs de façon plus efficace que des radiologistes. L'intelligence artificielle va assurément devenir un outil indispensable de diagnostic en radiologie, mais cela ne signifie pas que l'on n'aura plus besoin de radiologistes. Au contraire. Simplement, une part plus importante de leur travail sera confiée à des machines et leurs tâches devront être repensées. Est-on à la veille de voir apparaître une super intelligence capable de dépasser l'être humain? Certains chercheurs le croient, et ce ne serait qu'une question de temps avant que des formes de super intelligence artificielle voient le jour. La question n'est donc plus de savoir si cela va advenir, mais plutôt quand. Certains parlent de 25 ans, d'autres de 50. Donc, oui, un jour, une forme de super-intelligence sera capable de dépasser l'être humain et lorsque ce sera le cas, elle va rapidement le dépasser. Et pour certains chercheurs, la seule façon pour les individus de continuer à garder le contrôle sur la machine serait d'aller vers une forme d'hybridation homme-machine, une vision que la science-fiction alimente beaucoup, mais qui est encore loin de la réalité. Il reste que si ces algorithmes sont excellents pour reconnaître des modèles, des grandes tendances, la vie humaine est faite de singularité, de spontanéité et d'inédit que seule l'intelligence humaine et pour longtemps est capable d'appréhender de façon intuitive.
Oui, tout à fait. On peut parler un peu d'émotion aussi à travers tout ça. Ben, les machines n'ont pas d'émotion.
Si on met les émotions là-dedans, mon Dieu, on n'est pas sorti du bois.
Serge ne veut pas trop en parler d'émotion quand même. Merci beaucoup, Serge. Eh bien, on vous revient dans quelques instants. De robots quand même, mais ce matin, j'entendais à la radio, à d'autres radios naturellement, j'entendais qu'il y avait 38 000 emplois, plus de 38 000 emplois qui ne sont pas comblés au Québec, quand même. Hein?
38 000 emplois qui ne sont pas comblés?
Au Québec, oui, spécialisés entre autres. Ah. Serge, on poursuit avec toi, et là on parle de zones protégées.
Et oui, ça c'est moins drôle ça, par Frédéric Perron dans la revue Protégez-vous. Pirates informatiques, entreprises, gouvernements, police... Tous sont susceptibles de s'intéresser un peu trop à votre vie privée. Et voici comment barrer la route aux intrus. J'entrerai pas dans les détails parce que c'est technique, mais je vais vous mentionner des choses. OK? Au cours des dernières années, plusieurs actualités sont venues nous rappeler combien notre vie privée l'est, sans doute moins que nous le croyons. Tout près de nous, mentionnons l'affaire Patrick Lagacé, qui a fait couler beaucoup d'encre. De janvier à juillet 2016, le service de police de la ville de Montréal a surveillé le téléphone intelligent du journaliste de la presse. Le SPVM a recueilli les numéros entrants et sortants de l'appareil, et ce, tant pour les appels que pour les textos. Les policiers ont également pu localiser le téléphone grâce à son GPS intégré. Résultat, la surveillance de Patrick Lagacé et d'autres journalistes a été vivement dénoncé par les médias et a débouché sur la commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques. Le site canadien Ashley Madison, qui agit comme intermédiaire pour les personnes souhaitant faire des rencontres extra-conjugales en toute confidentialité, a pour sa part subi les attaques de pirates informatiques. En juillet 2015,
Ces derniers ont mis la main sur les noms et les coordonnées de milliers d'utilisateurs et les ont rendus publics. Autre exemple, frappant. En juin 2013, Edward Snowden a alerté les médias au sujet des programmes de surveillance mis en place par la National Security Agency, NSA, l'agence de renseignement américaine. D'après une analyse du Washington Post, 90 % des documents, courriels, messages instantanés, etc., collectés par la NSA appartenaient à des citoyens qui n'avaient rien à se reprocher. Rien à cacher?
Non.
Vraiment? Ces événements, qui à première vue n'ont rien à voir les uns avec les autres, viennent nous rappeler qu'à l'ère du numérique, les conversations et les renseignements que vous croyez privés peuvent facilement vous échapper. Vous pensez que cela ne vous concerne pas ou que ce n'est pas si grave que ça? Erreur, estime Vincent Gautret, professeur de droit à l'Université de Montréal. Selon lui, tout le monde a quelque chose à cacher, qu'il s'agisse d'un jeune qui s'interroge sur son orientation sexuelle, d'une personne qui s'informe sur une maladie dont elle est atteinte ou encore d'un lanceur d'alerte qui cherche à communiquer avec un journaliste. Heureusement, il existe plusieurs outils, applications, logiciels permettant de mieux protéger vos activités en ligne. Et dans cet article, nous vous en présentons 8 parmi les plus pratiques et les plus faciles à utiliser. Selon les propres essais de Protégez-vous et l'avis d'experts qu'on a consultés. Alors, sauf mention contraire, tous sont gratuits. Donc, il y a 8 outils. Alors, je vais vous les mentionner, mais je n'entrerai pas dans les détails parce que là, ce serait fastidieux. Puis, de toute façon, on s'en rappelle pas. Alors, le mieux, c'est de prendre la revue Protégez-vous du mois de septembre 2017. Et puis, voilà, c'est tout y est. Alors, le gestionnaire, ça, c'est le premier outil. 1. Des mots de passe, LastPass. Depuis plusieurs années, on vous répète ces conseils à propos d'utilisation des mots de passe sur le web. Assurez-vous qu'ils sont longs et complexes et n'employez jamais le même différent sur les mêmes sites. Enfin, sinon, un pirate qui mettrait la main sur le mot de passe de l'un de vos comptes en ligne pourrait aussi accéder à tous les autres. Ouais, facile à dire. Mais en raison de la multiplication des services en ligne, vous pouvez facilement vous retrouver avec des dizaines de séries de caractères à mémoriser et la tentation d'utiliser le même sur plusieurs sites devient alors très forte. La solution? Recourir à une application qui permet de générer des mots de passe complexes et de les enregistrer afin de vous éviter d'avoir à vous en souvenir. Et leur accès est alors protégé par un mot de passe principal que vous devrez absolument mémoriser, car pour des raisons de sécurité, il ne peut pas être récupéré par courriel, comme il est possible de le faire avec la plupart des services web, réseaux sociaux, sites commerciaux, etc. Et parmi les gestionnaires de mots de passe qu'on a essayé, LastPass nous a semblé le meilleur. Non seulement il est facile à utiliser, mais il est compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation et navigateurs. En plus, il est gratuit. Autre point positif, il propose la validation en deux étapes. C'est bon? La validation en deux étapes, aussi appelée authentification à deux facteurs, la validation en deux étapes ajoute une étape pour accéder à votre compte. Alors ça, c'est le deuxième outil. Le troisième outil, l'extension Privacy Badger. Lorsque vous visitez un site d'actualité, par exemple, celui-ci télécharge le contenu, les nouvelles, et dans ce cas, mais aussi des contenus de tierces parties, bannières publicitaires, outils de statistiques, etc., etc. Alors ça, c'est possible avec l'extension Privacy Badger. 4. Le navigateur Tor. Grâce à divers serveurs installés ailleurs dans le monde, Tor détourne votre navigation web afin de cacher à d'autres votre emplacement et vos habitudes de navigation. Alors, le cinquième outil que l'on peut utiliser, le VPN, Private Internet Access, un réseau privé virtuel, mieux connu sous le nom de VPN pour Virtual Private Network, ressemble un peu à Tor, mais en plus performant. C'est bon, ça? 6. la messagerie instantanée Signal. Aujourd'hui, plusieurs applications de messagerie pour téléphone intelligent, dont la plupart ont aussi une version pour ordinateur, proposent le cryptage des données. Aussi, en cas d'interception par un intermédiaire, les messages échangés, qu'il s'agisse de textos ou de messages audio ou vidéo, demeurent indéchiffrables. C'est bon, ça? 7. Le moteur de recherche DuckDuckGo. Canard-canard-go. Alors, quand vous vous servez d'un moteur de recherche comme Google ou Bing, celui-ci collecte des informations qui permettent de vous relier à vos recherches. Il obtient notamment votre adresse identifiant en ligne attribuée à vos appareils, en plus de conserver votre historique de navigation. Si vous êtes connecté à votre compte Google ou Microsoft, vos recherches peuvent aussi être associées à votre adresse de courriel. De plus, les sites que vous visitez par l'entremise d'un moteur peuvent savoir quel mot-clé vous avez tapé avant de les visiter. Voyez-vous? Mm-hmm. Alors, le moteur de recherche DuckDuckGo. Et puis après ça, le service de courriel ProtonMail. C'est le dernier. Conçu par des scientifiques du Conseil européen pour la recherche nucléaire en Suisse, ProtonMail est un service de courriel en ligne axé sur la protection de la vie privée. Un peu comme la messagerie instantanée Signal. Il est conçu en code source ouvert et les courriels de ses usagers pour les rendre illisibles par un pirate qui arriverait à les intercepter. Ben, c'est bon?
Voilà.
En avez-vous assez?
Ah ben oui. Écoute,
j'en ai pas neuf, j'en ai juste huit.
Pour avoir les détails quand même.
C'est bon?
C'est bien ce que j'avais compris, huit. Mais il faut aller chercher les détails dans le magazine Protégez-vous. Hein,
oui, tout disais, à Serge. Fait, mais c'est intéressant.
Du mois de septembre,
tout à fait. Je me sens protégé tout d'un coup.
On vous revient dans quelques instants avec quelques brèves.
Oui.
Alors, Franceline, quelques petites nouvelles brèves.
Oui, ben une qui a un rapport avec ce que Serge disait, enfin pas tout à fait, mais enfin qui... Tout est sous contrôle, elle se nomme cette brève. Qui ne s'est jamais demandé s'il avait bien éteint l'élément de la cuisinière avant de quitter la maison? Désormais, vous pouvez le fermer à distance au moyen de votre cellulaire. La marque GE vient en effet de lancer l'application Connexion Wi-Fi qui permet de contrôler les électroménagers intelligents. Votre lave-vaisselle coule, le système d'alerte vous en informe aussitôt. Vive la technologie pour la tranquillité d'esprit.
Exactement. C'est merveilleux.
Exactement.
Merveilleux.
Comme le frigo.
Oui, alors j'en ai une autre aussi. Ai-je vraiment faim? Vous arrive-t-il de perdre le contrôle en succombant à une fringale, de vider un méga sac de croustilles quand vous êtes stressé ou en colère? Pas évident de se libérer de ces compulsions. C'est justement le propos d'un nouvel ouvrage d'Isabelle Huot, docteur en nutrition, et de la psychologue Catherine Sénécal. Dans « Cessez de manger vos émotions », ces deux expertes des troubles alimentaires proposent une foule de trucs, d'exercices et d'outils pour rééquilibrer son rapport avec la nourriture et son image corporelle.
Merci.
C'est aux éditions de l'Homme.
Merci beaucoup, Franceline. Eh bien, merci à vous deux, Serge, Franceline. Bonne semaine à vous. Nous, on se retrouve lundi prochain. Et surtout, allez sur le site internet calalm.vuezevoix.com pour tous les détails, en rediffusion d'ailleurs.